Il faut d'abord rappeler que Pie XII est élu pape le 2 mars 1939, soit à peu près 6 mois avant le déclenchement de la guerre. Et donc, dès son élection, le Vatican, le Saint-Siège, a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour tenter d'empêcher le déclenchement de cette guerre. L'idée était de proposer la convocation d'une nouvelle conférence de paix à cinq entre les grandes puissances de l'époque pour précisément éviter une nouvelle agression de l'Allemagne hitlérienne. Et lorsqu'il a compris qu'il n'y avait plus grand espoir au niveau diplomatique, il a lancé son fameux appel sur les ondes de Radio Vatican du 24 août avec cette fameuse phrase « Rien n'est perdu avec la paix, tout peut l'être avec la guerre », qui était un appel à la raison, au fond, lancé au lendemain de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, qui marquait la convergence des deux totalitarismes nazis et communistes, que le pape, le Saint-Siège, Pie XI, avait solennellement condamné 2 ans auparavant.
Donc c'est à la suite de ce pacte que le Saint-Siège comprend effectivement qu'il ne peut plus arrêter la guerre, c'est bien ça?
Oui, c'est un ultime appel désespéré à la raison des gouvernants pour tenter d'éviter l'irréparable, c'est-à-dire le déclenchement d'une nouvelle guerre qui serait une véritable catastrophe pour l'Europe et pour le monde.
Alors, entre cet appel et le 1er septembre, il ne se passe plus rien du côté du Saint-Siège. Le Saint-Siège ne fera plus de démarches.
Je crois qu'à ce moment-là, le Vatican, depuis XII, a compris qu'au fond, l'heure de la diplomatie, malheureusement, était passée. Et qu'il fallait tenter de faire tout ce qu'il était possible pour sauvegarder en tout cas l'existence de l'Église.
Quelle sera la démarche suivante du Saint-Siège et quand va-t-elle intervenir?
À partir de ce moment-là, je crois que Pie XII a compris, donc il avait été, il faut peut-être revenir un peu en arrière, il avait été, durant la Première Guerre mondiale, l'un des principaux collaborateurs du pape Benoît XV. Et donc il avait vécu déjà comme diplomate du Saint-Siège cette immense tragédie qu'avait été la Première Guerre mondiale. Et je crois qu'il en avait tiré des enseignements. Le premier était qu'il ne servait à rien de prendre des initiatives si les gouvernements n'étaient pas demandeurs, au fond, parce que ça ne pouvait conduire qu'à un échec. Et il faut rappeler ici l'échec qui avait été l'initiative de paix de Benoît XV en 1917. Donc il y a cette idée de ne pas répéter les erreurs du passé. Mais en même temps, il y a quand même une profonde continuité de la politique vaticane, en ce sens que Pie XII, dès le début du conflit, affirme très clairement l'impartialité du Saint-Siège. Au fond, l'impossibilité pour le Vatican de prendre parti clairement dans cette guerre. Et ce qui veut dire très clairement aussi l'impossibilité de désigner nommément les coupables, les agresseurs. Ce qui aurait été immédiatement considéré ou pris comme précisément comme une prise de position du Saint-Siège dans le conflit. C'est là tout le drame de Pie XII durant la guerre, cette impossibilité de dire les choses telles qu'elles étaient.
Oui, justement, c'est le reproche qu'on lui a fait et qu'on lui fait depuis quelques années.
Oui, c'est toute la question des fameux silences de Pie XII durant la guerre. Ce qui fait que Pie XII n'a pas condamné très clairement l'agression allemande contre la Pologne. Il s'est contenté d'exprimer des paroles de compassion pour la Pologne, pour les Polonais, recevant une délégation de réfugiés polonais à fin septembre. Et ces paroles ont suscité une certaine déception, évidemment, dans les milieux polonais, mais au-delà aussi dans les chancelleries occidentales. Et c'est à ce moment-là que l'Osservatore Romano a publié un article qui expliquait très clairement que le langage du Saint-Siège, du Père commun, du Saint-Père, ne pouvait être celui de n'importe quel chef de guerre, de n'importe quel chef même d'une église locale, qu'il était au fond tenu à une certaine réserve, en raison même de son rôle, de sa fonction de chef suprême, de Père commun de tous les fidèles, et comme tel responsable aussi des millions de catholiques allemands.
Quand on pose la question, quand on demande à certains historiens qu'a fait le Saint-Siège au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, on s'entend parfois répondre « rien ».
Rien, oui et non, dans le sens que je viens de le rappeler. Dès son élection, Pie XII a quand même fait tout ce qui était en son pouvoir, mobiliser toutes les ressources de la diplomatie vaticane pour tenter d'arrêter cette spirale qui a conduit au déclenchement de la guerre. Mais il est vrai qu'une fois le conflit engagé, la marge de manœuvre de la diplomatie vaticane était quand même assez faible. Et la priorité était, j'allais dire, d'ordre pastoral. Il s'agissait de défendre l'Église comme telle, comme institution dans les différents pays en conflit. Sans parler, bien sûr, de tout le volet humanitaire de l'action du Saint-Siège, qui a été aussi une part importante de son action pendant la guerre.
Est-il vrai également qu'une des priorités de Pie XII et du Saint-Siège, après donc le 1er septembre 1939, a été d'empêcher que l'Italie, à son tour, ne soit impliquée dans cette guerre?
Oui, alors là, absolument. Le Saint-Siège, et Pie XII en particulier, a manifesté très clairement son attachement à la neutralité italienne, n'hésitant pas à se rendre lui-même au Quirinal en décembre 1939, pour rendre visite au souverain italien et rappelant à cette occasion le bien fondé du choix de l'Italie de rester en dehors du conflit. Et donc il n'a cessé jusqu'à la décision finale de l'Italie de Mussolini d'entrer dans le conflit en juin 1940 de manifester cet attachement en espérant que finalement l'Italie pourrait rester en dehors de la guerre.
Il a peut-être donné l'impression d'avoir peut-être une sympathie excessive en tant qu'Italien, évidemment, pour l'Italie, comme si c'était son principal souci. C'est une interprétation erronée.
Ben, il est évident que pour Pie XII, comme pour son prédécesseur, étant italien, il y a tout de même un attachement à la nation italienne. L'Italie restait le jardin de l'Église, comme on dit. Mais il y avait aussi cette préoccupation que l'Italie entrant dans le conflit, le Saint-Siège, précisément l'indépendance du Saint-Siège ne soit remise en cause et qu'il devienne beaucoup plus difficile de maintenir une attitude de neutralité ou d'impartialité, étant donné la position géographique du Vatican au cœur même de l'Italie et de Rome en particulier. Même si de ce point de vue, la situation était meilleure, disons, qu'elle ne l'était durant la Première Guerre mondiale, puisqu'entre deux avaient été signés les fameux accords du Latran qui donnaient quand même des garanties juridiques au Saint-Siège de ce point de vue en cas de conflit.
Professeur Chenoux, vous avez consacré un de vos principaux ouvrages justement à ces silences de Pie XII et à les expliquer pourquoi on ne les avait pas compris. Bon, on ne va pas revenir sur toute l'affaire, mais aujourd'hui, au moment où on célèbre justement le 70e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on constate un changement, un tournant peut-être vis-à-vis de Pie XII? Est-ce qu'on commence à mieux le comprendre, à mieux le connaître ou non? Quelle est votre impression?
Bon, j'ai quand même l'impression que malgré tout, malgré ces polémiques récurrentes concernant son action durant la guerre, le travail des historiens fait son chemin et que finalement on arrive quand même à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses qui aujourd'hui apparaissent tout de même irréfutables. Qu'il s'agisse de son rôle, il faut peut-être le rappeler aussi, lorsqu'il est élu en 1939, il est le secrétaire d'État du pape Pie XI. Il l'a été depuis le début des années 30. Donc le chef, en quelque sorte, de la diplomatie vaticane durant les années 30. Et c'est lui qui a conduit la politique du Saint-Siège durant ces années, en particulier à l'égard de l'Allemagne nazie. Et son rôle, notamment dans la rédaction de la fameuse encyclique Mit Brennender Sorge condamnant le nazisme en mars 37, est aujourd'hui clairement établi et n'est pas remis en question par personne, par aucun historien digne de ce nom. De même, le fait qu'il a été élu en 1939, après trois tours seulement de scrutin, en raison même du rôle qui était le sien sous le pontificat précédent. Donc, il a été élu précisément parce qu'il incarnait cette continuité antitotalitaire, au fond, de la politique du Vatican.
Voilà, le pontificat de Pie XI avait bien saisi la gravité des deux systèmes, le stalinisme et le nazisme.
Absolument. Et de ce point de vue, il faut rappeler cette condamnation quasiment simultané des deux grands systèmes totalitaires, que c'était d'une part le national-socialisme et d'autre part le communisme, avec ces deux fameuses encycliques de mars 37, Mit Brennender Sorge contre le nazisme et Divini Redemptoris contre le communisme. Ce qui était une façon de marquer, au fond, l'équivalence monstrueuse de totalitarisme.
On peut dire qu'il y avait une grande lucidité de la part du Saint-Siège à l'époque.
De ce point de vue-là, je pense qu'on peut le dire. Même si le Vatican, et c'est peut-être là l'une des limites qui est à la base de toutes les polémiques récurrentes concernant l'action de Pie XII durant la guerre, le Vatican a toujours cherché à maintenir une certaine distinction entre les idéologies comme telles, totalitaires, antichrétiennes, que l'on condamne fermement, et d'autre part les États comme tels avec lesquels le Saint-Siège cherchait malgré tout à maintenir de bons rapports, ne serait-ce que pour défendre l'existence de l'Église dans ces pays, en particulier en Allemagne, où l'Église était quand même une réalité importante.
Encore une question, en tant qu'historien, comment est-ce que vous voyez les polémiques qui surgissent un peu partout actuellement, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale? On voit des tensions au sujet des responsabilités entre l'Allemagne et la Russie, une volonté de la part du pouvoir russe de réhabiliter d'une certaine manière le stalinisme et d'accabler l'Allemagne. On a l'impression que 70 ans après, toutes les blessures n'ont pas été guéries et qu'il y a des tensions, des ressentiments qui existent encore. En tant qu'historien, vous avez un sentiment à ce sujet?
Certainement qu'il y a, il y a des tensions qui prouvent que ce travail de... En tout cas, entre l'Allemagne et la Russie, tout un travail de clarification, de purification de la mémoire, comme disait Jean-Paul II, qui n'a pas été fait. Alors même qu'il a été fait de manière exemplaire entre la France et l'Allemagne, ce qui a permis la construction de l'Europe, de l'Europe unie, de l'Union européenne. Mais les déclarations de Poutine ne m'étonnent pas plus que cela, parce que c'est au fond un homme du sérail, hein, un officier du KGB, et donc il incarne malgré lui une certaine continuité.
Oui, on a vu quand même que les opinions publiques aussi n'étaient pas prêtes à mettre sur un même pied d'égalité le nazisme et le communisme, en tous les cas le stalinisme, puisque l'initiative de l'OSCE de convoquer une journée de la mémoire pour les victimes des deux régimes totalitaires n'a pas suscité un grand enthousiasme. Donc c'est comme si on avait du mal à mettre le nazisme sur le même plan que tout autre.
Je crois qu'on retrouve ça aussi au niveau de la production des historiens. Il y a, en tout cas, même des historiens, j'entends, de l'Église, une attention beaucoup plus grande à la question du nazisme, etc., qu'à la question du communisme. Et c'est en partie pour cela aussi que j'ai voulu écrire ce livre. Moi, pour ma part, je suis quand même assez attaché à cette notion de totalitarisme et qui montre au fond d'abord aussi les convergences entre ces deux systèmes et ces deux idéologies. Et je crois que ça a été le cas aussi du Vatican sous Pie XI dans les années 30 et d'autres auteurs catholiques qui ont manifesté une grande lucidité dans l'analyse de ces systèmes dès cette époque.
Je vous remercie.
Merci.